C'est sur cette superbe musique de Michael Kamen que nous débutons ce hors-série des Baby Graveurs, consacré à la mini-série Band of Brothers. 25 ans après sa diffusion sur HBO, il était temps de s'intéresser à l'une des meilleures séries jamais produites et l'une des plus chères également à l'époque. Un budget de 125 millions de dollars, soit environ 12 millions de dollars par épisode, il faut se rendre compte de ce que ça représentait à l'époque pour la chaîne à péage. Nous sommes 10 ans avant l'ère Game of Thrones, et l'avènement des séries blockbusters. Et Band of Brothers marque clairement un premier tournant dans la production audiovisuelle de séries à grand spectacle. Baby Graveur quitte donc momentanément le monde du cinéma pour celui du petit écran, en conservant cet ADN basé sur une histoire vraie. Tout au long de ces épisodes, nous aurons pour ambition de vous raconter, au travers des 10 épisodes de la série, comment la Easy Company a traversé l'Europe en guerre, mais aussi disséquer comment cette œuvre a été fabriquée et où elle s'écarte et rejoint l'histoire réelle. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à la genèse du projet, parler du casting et du tournage, puis basculer sur les deux premiers épisodes de la série. Distinguer ce qui est vrai de ce qui est romancé, et on s'attardera sur le portrait de l'un des protagonistes de la série. La genèse et les origines. Alors le point de départ, c'est le livre. La série est adaptée de l'ouvrage Band of Brothers, E Company, 506 Regiment, 101st Airborne from Normandy to Hitler's Eagle's Nest, publié en 1992 par l'historien américain Stephen E. Ambrose. Le livre a été construit à partir de témoignages directs, d'entretiens enregistrés et de correspondances des vétérans de la Easy Company, du 506e Régiment d'infanterie parachutiste, la 101e aéroportée. Notamment Donald Malarkey, dont les souvenirs ont largement nourri la reconstitution. Ambrose est mort en octobre 2002, un an seulement après la diffusion de la série, qu'il n'aura donc vu accueilli qu'en partie par le succès critique et les récompenses. Le projet naît dans la foulée du tournage d'Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. Spielberg et Tom Hanks, associés au sein de leur société de production Playtone avec Gary Goldsman, veulent aller plus loin que le film, montrer une unité entière sur la durée complète de la guerre, de l'entraînement débuté en 1942. À la capitulation japonaise en 1945. Ils obtiennent le feu vert de HBO dès 1998, le tournage ne débutera toutefois qu'en 2000. Il y a également le rôle décisif du scénariste Erik Jedrensen, C'est lui qui a effectivement porté la série au quotidien. Selon son propre récit, tout a commencé en 1999 par un appel de son agent lui demandant s'il avait lu le livre d'Ambrose, ce qui n'était pas le cas. Il le lira en une seule soirée avant de rappeler son agent pour dire qu'il souhaitait rencontrer Tom Hanks. Yana Choi, qui travaillait pour Playtone, s'est alors déplacée pour le rencontrer à Philadelphie. Jen Dresden a ensuite passé plusieurs mois, entre 4 et 6, à s'immerger totalement dans l'histoire de la Easy Company, en collaborant quotidiennement avec Richard Winters lui-même, qu'il est allé rencontrer directement dans sa ferme de Hershey, en Pennsylvanie, pour éplucher avec lui lettres et journaux que les vétérans avaient envoyés à leur ancien commandant au fil des décennies. De cette collaboration est née une bible de la série, de 275 pages, détaillant l'intrigue et chaque épisode, ainsi qu'une véritable amitié entre les deux hommes. Jen Dresden prononcera l'éloge funèbre de Winters à sa mort en 2011. Steven Spielberg jouait quant à lui le rôle du dernier regard, validant l'ensemble en s'appuyant sur l'expérience acquise avec Il faut sauver le soldat Ryan. Au-delà de Jen Dresden, plusieurs scénaristes se sont partagés les épisodes. Bruce McKenna, John Orloff, E. Max Fry, Graham Yost et Tom Hanks lui-même qui a signé l'écriture d'un épisode en plus d'en réaliser un autre, le Bastogne épisode 6. Au total, 8 réalisateurs se sont relayés sur les 10 épisodes. Phil Alden Robinson, Richard Longrane, Michael Solomon, David Nutter, Tom Hanks donc, David Leland, David Frankel et Tony To. À la fin des années 1990, quand les discussions démarrent, le coût prévisionnel, environ 125 millions de dollars, est considérable et inédit pour une production télévisée. HBO prend un risque énorme en s'engageant sur ce budget à une époque où personne ne finançait la télévision à un tel niveau. Un niveau comparable à celui d'une grosse production cinématographique de l'époque. Un budget promotionnel additionnel de 15 millions de dollars a même été consacré à la campagne de lancement. Le projet a par ailleurs été coproduit avec la BBC et la chaîne française France 2. Plusieurs facteurs expliquent que HBO ait accepté ce pari. Il y a un momentum déjà installé. HBO n'arrive pas en terrain vierge. Depuis la fin des années 90, la chaîne a commencé à démontrer qu'une série premium, sans coupure pub, avec un vrai budget et une exigence d'auteur, pouvait fidéliser des abonnés. Oz en 1997 et surtout Les Sopranos en 1999 ont déjà prouvé que le modèle économique de l'abonnement permettait des prises de risques créatives qui était impossible sur les networks classiques. Le tandem Spielberg-Hanks se pose comme garantie. Steven Spielberg et Tom Hanks, forts du succès critique et public d'Il faut sauver le soldat Ryan, portent le projet, leur nom rassure les investisseurs et donne à la série une légitimité cinématographique immédiate. C'est un argument de poids pour justifier un budget aussi énorme sur un format télé. On est dans une fenêtre historique et mémorielle. Au tournant des années 2000, la génération des vétérans de la Seconde Guerre mondiale s'éteint rapidement. Tom Brokaw venait de populariser l'expression « la plus grande génération » dans son livre de 1998. Il y a donc une urgence culturelle à documenter ces récits et un climat de reconnaissance nostalgique du sacrifice des soldats. Le terrain est alors fertile pour une série qui se veut à la fois divertissement et devoir de mémoire. Enfin, la logique de différenciation de marque. HBO cherche justement à se positionner comme « ce n'est pas de la télévision, c'est HBO », le fameux slogan lancé en 1996. Une fresque historique somptueuse, avec une production digne du grand écran, est l'incarnation parfaite de ce positionnement. Il s'agit de prouver que la télévision par abonnement peut rivaliser avec le cinéma en prestige et en qualité. La série a été lancée sur HBO le 9 septembre 2001, réunissant 10 millions de téléspectateurs dès le premier soir. 2 jours avant les attentats du 11 septembre. HBO a aussitôt suspendu toute sa campagne promotionnelle par respect pour le contexte et l'audience s'est peu à peu érodée. 7,2 millions pour l'épisode 2, jusqu'à 5,1 millions seulement pour le final. Alors même que la critique et les récompenses allaient consacrer la série comme un chef-d'œuvre télévisuel. Quelques mois avant cette diffusion, HBO avait organisé une avant-première spectaculaire sur la plage d'Utah Beach en Normandie, les 6 et 7 juin 2001. 57 ans après le débarquement. Une cinquantaine de vétérans de la Easy Company et leurs familles avaient été transportés en avion jusqu'à Paris, puis dans un train spécialement affrété jusqu'au site du débarquement pour découvrir la série avant tout le monde. Band of Brothers a été nommé 20 fois aux Emmy Awards et en a remporté 7, dont celui de meilleure mini-série et de meilleure réalisation. Elle a également reçu le Golden Globe de la meilleure mini-série, le prix de l'American Film Institute, un Producers Guild Award, un TCA Award ainsi qu'un prestigieux Peabody Award. Lors de la cérémonie des Emmy Awards de septembre 2002, Spielberg a prononcé une phrase restée célèbre en recevant le prix de la meilleure mini-série. « Nous n'avons pas simplement gagné ceci ce soir, les hommes de la Easy Company l'ont gagné en 1944 », provoquant une standing ovation du public envers les vétérans qui suivaient la cérémonie en direct depuis un hôtel à Los Angeles. Band of Brothers a eu un effet d'entraînement sur plusieurs plans. Elle légitime le blockbuster télévisuel, le succès critique, primé aux Emmy et aux Golden Globes, et le respect qu'elle inspire montre qu'une série peut avoir de l'ambition visuelle, le budget par épisode et l'exigence narrative d'un grand film, tout en conservant le format long qui permet un développement des personnages impossible sur 2 heures. Elle valide le recours à des talents de cinéma. Le fait que des figures comme Spielberg et Hanks s'investissent dans la télévision, plutôt que de la considérer comme un format mineur, ouvrira la porte à d'autres cinéastes et acteurs de premier plan pour venir travailler sur le petit écran dans les années suivantes. Elle a installé l'idée de la mini-série événement comme produit d'appel. HBO comprend qu'une production limitée, très chère mais ponctuelle, peut générer un afflux d'abonnements disproportionné par rapport à son coût, sans nécessiter l'engagement financier récurrent d'une série au long cours. Cette stratégie se prolonge directement dans les années suivantes, avec les séries The Pacific en 2010, suite spirituelle directe, même tandem Spielberg-Hanks, même ambition sur le théâtre du Pacifique, HBO capitalise sur la formule qui a fonctionné. Rome, 2005-2007, puis Deadwood, 2004-2006, la chaîne étend la logique de reconstitution historique somptueuse à d'autres époques, avec des décors et une direction artistique tout aussi ambitieuse. Game of Thrones, en 2011, c'est sans doute l'héritier le plus spectaculaire de cette philosophie. Un budget par épisode qui ne cesse de grimper, dépassant largement celui de Band of Brothers dans ses dernières saisons, justifié par la même logique, la télévision premium doit offrir une expérience visuelle et narrative qu'aucune chaîne généraliste ne peut se permettre. Plus largement, la série s'inscrit dans la construction de l'identité d'HBO comme un diffuseur du prestige à la télévision. Une catégorie qui structure encore aujourd'hui la manière dont on parle des plateformes premium, et que Netflix, Apple TV ou Amazon reprendront ensuite à leur compte. En somme, Band of Brothers n'est pas un coup isolé, mais une pièce d'origine dans la stratégie de long terme, utiliser des productions événementielles et coûteuses pour redéfinir ce que peut être la télévision et faire de HBO la référence du genre pendant les 2 décennies suivantes. On passe au casting. Les acteurs principaux, Damian Lewis, qui joue le Major Richard Day Winters, on l'a vu dans Once Upon a Time in Hollywood, Homeland ou Billions. Ron Livingstone, qui joue le capitaine Lewis Nixon, qu'on a pu voir dans Sex and the City, Doctor House ou Boardwalk Empire. Scott Grimes, qui joue le sergent Donald Malarkey, qu'on a pu voir dans Critters, USS Alabama, Romain Desbois, Oppenheimer ou Urgence. Donnie Wahlberg, qui joue le sous-lieutenant Carwood Lipton, qu'on a pu voir dans La Rançon ou Sixième Sens. Neil McDonough, qui joue le lieutenant Buck Compton, qu'on a pu voir dans Minority Report, Mémoire de nos pères, Captain America, Desperate Housewives et Yellowstone. Frank John Hughes, qui joue le sergent-chef William Garnery, qu'on a pu voir dans Arrête-moi si tu peux ou The Offer. Shane Taylor, qui joue le caporal Eugene Doc Rowe. Rick Gomez, qui joue le sergent George Luz. Dexter Fletcher, qui joue le sergent-chef John Martin, qu'on a vu dans Arnaque, crime et botanique, et qui est passé ensuite à la réalisation et qui a notamment fait Bohemian Rhapsody et Rocketman. Ross McCall, qui joue le caporal Joseph Lipgott. Michael Kudlitz, qui joue le sergent Bull Randleman. James Maddio, qui joue le sergent Frank Perconte. Kirk Acevedo, qui joue le sergent-chef Joe Toy, qu'on a pu voir dans La Ligne Rouge ou dans Fringe. Matthew Settle, qui joue le capitaine Ronald Spears, qu'on a pu voir dans U-571 ou Gossip Girl. Le reste du casting, ce sont de jeunes inconnus britanniques. Le tournage ayant eu lieu en Angleterre, la production a puisé dans un vivier de jeunes acteurs britanniques, alors quasiment inconnus pour incarner les seconds rôles. Parmi eux, des noms devenus depuis très célèbres. Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy, Simon Pegg, Andrew Scott, Jimmy Fallon ou encore Dominic Cooper. Seul David Schwimmer, qui joue le capitaine Sobel, était déjà connu grâce à Friends et donc la seule tête d'affiche au moment du tournage. Le turnover de 24 acteurs crédités au générique s'explique aussi par un aspect volontairement réaliste de l'écriture. L'espérance de vie des personnages dans une compagnie de combat n'est pas celle d'un casting de stars protégées. Le rôle central de la série, celui du Major Richard Winters, fait l'objet d'un processus d'audition particulièrement long. Damien Lewis, alors acteur de théâtre peu connu à l'écran, a enchaîné 4 auditions à Londres dans ce qu'il décrit lui-même comme un sombre sous-sol de Soho. Après la 2e audition, on lui apprend qu'il est envisagé pour le rôle principal de Winters, et il doit alors suivre un entraînement d'accent américain. Après la 3e, son agent l'informe qu'il est devenu l'unique acteur envisagé pour le rôle par Hanks et Spielberg. Avant la rencontre décisive à Los Angeles, Lewis, persuadé d'avoir déjà obtenu le rôle, sort célébrer l'événement et se couche à 5h du matin, pour apprendre 3h plus tard qu'il doit rencontrer Spielberg et Hanks le jour même. Il raconte dans son journal être arrivé en sueur et tremblant après 3 douches froides et 5 cafés. Ironie du sort, en arrivant dans les bureaux de la prod, il découvre des photos de Winters jeune affichées au mur et s'assoit littéralement à côté d'un autre candidat qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au vétéran. Spielberg, qui se souvenait de sa prestation à Broadway, choisit finalement Lewis pour le rôle. Lewis a ensuite rencontré Winters en personne et a évoqué des conversations exhaustives avec la production sur la nécessité de rester fidèle à l'essence du personnage sans pour autant chercher à l'imiter littéralement. Une prudence justifiée par le fait que Winters était encore vivant au moment du tournage. Le vétéran, invité à la première de la série, s'est montré globalement impressionné par le réalisme de la reconstitution, tout en confiant que Lewis aurait pu, selon lui, se montrer plus incisif dans certaines scènes. Un jugement nuancé qui n'a rien enlevé à l'estime que les deux hommes se sont portés par la suite. Le camp d'entraînement de Del Dye. Avant le tournage, 40 acteurs incarnant la Easy Company ont suivi un camp d'entraînement intensif de 10 jours dans le Hampshire, en Angleterre, sous la supervision du capitaine Del Dye. Ancien correspondant de guerre des Marines pendant la guerre du Vietnam, devenu conseiller technique à Hollywood après avoir quitté l'armée en 1984 et fondé sa société Warriors. Dye avait déjà œuvré sur des tournages comme Platoon ou Il faut sauver le soldat Ryan, où le casting avait d'ailleurs, selon la rumeur, envisager une mutinerie collective à mi-parcours du camp d'entraînement. On en avait parlé dans l'épisode des Baby Gravers consacré au film. Sur le Band of Brothers, il a également interprété un petit rôle récurrent à l'écran, celui du colonel Robert Sink, commandant du 506e régiment. Les journées duraient entre 16 et 18 heures, démarrant dès 5 ou 6 heures du matin par des exercices physiques et une course de 3 à 5 miles, suivie d'heures d'entraînement tactique, maniement des armes, navigation à la boussole, exercice de tir simulé, patrouille nocturne. Les nuits étaient découpées en tranches de 2 heures de sommeil suivies d'une heure de garde. Les acteurs devaient creuser des trous de combat, dormir à même le sol froid et humide de bâtiments vides et n'avaient accès ni à leur téléphone ni à aucun objet moderne. Ils devaient s'appeler entre eux par les noms de leurs personnages pendant toute la durée du camp. Les repas n'étaient servis que 2 fois par jour et uniquement si le groupe n'avait pas déplu au capitaine Dye. Le camp s'est achevé par un saut depuis une tour d'entraînement de la base aérienne de Bryce Norton, là où s'entraînent réellement les para-britanniques, permettant symboliquement aux acteurs de gagner leurs ailes. L'acteur Ron Livingston a filmé une partie de cette expérience sous forme de journal vidéo personnel. Michael Fassbender a raconté que les bottes de saut fournies, dures comme du fer blanc, devaient être trempées dans l'eau chaude, puis portées toute la nuit pour se faire progressivement à la forme du pied. L'acteur Rick Gomez a lâché face caméra. Dès le premier jour du camp, on est vraiment dans la merde. Scott Grimes se souvient que certains hommes ont pleuré en s'endormant la première nuit. Del Dye lui-même a résumé sa méthode ainsi dans le making-of. L'idée était de donner aux acteurs quelque chose de vécu auquel se raccrocher, une compréhension réelle de ce que signifie l'épuisement ou la peur pour un soldat, plutôt qu'une simple indication de mise en scène. Il ne s'agissait donc pas seulement de forme physique, l'objectif était de faire naître entre les acteurs une véritable cohésion de groupe pour que la camaraderie affichée à l'écran ne soit pas jouée mais vécue. La plupart des acteurs ont par ailleurs rencontré en personne les vétérans qu'ils incarnaient à l'écran, certains d'entre eux nouant des amitiés durables qui se sont poursuivies bien après le tournage. Le tournage justement, qui s'est étalé sur environ 10 mois au cours de l'année 2000, une année exceptionnellement pluvieuse. Il s'est déroulé majoritairement sur un ancien site industriel aérospatial à Hatfield en Angleterre. Un faux village a été construit sur place et reconfiguré à plusieurs reprises pour représenter 11 localités européennes différentes selon les épisodes. Près de 700 armes réelles désactivées et 400 répliques ont été utilisées sur l'ensemble du tournage, mobilisant plus de 2000 figurants au total. Sous la responsabilité de la chef costumière Penny Rose, l'équipe a utilisé environ 20 000 m² de tissu, l'équivalent d'une centaine de courts de tennis, spécialement tissés en Inde sur d'anciens métiers pour reproduire fidèlement les textures de l'époque, jusqu'au bouton des uniformes. Dès le troisième épisode de la série, le coût des seuls effets pyrotechniques dépassait déjà le budget total consacré à l'ensemble des effets d'Il faut sauver le soldat Ryan, une indication frappante du niveau d'ambition visuelle de la production. La série détient encore aujourd'hui le record de la plus grande quantité de neige artificielle jamais utilisée pour un tournage télé. 150 tonnes de papier recyclé ont été nécessaires pour recréer la neige de la forêt des Ardennes dans l'épisode 6 Bastogne. La partition originale a été composée par Michael Kamen, très différente de ses créations précédentes. Elle a des accents John Williamsiens, très soldat Ryan, très patriotique. Sur le plan visuel, la série reprend délibérément l'esthétique développée par Spielberg sur Il faut sauver le soldat Ryan, caméra portée, désaturation des couleurs, sens du chaos et de la proximité physique du combat. Une des marques de fabrique de la série est l'ouverture de chaque épisode par de courts témoignages filmés de vétérans réels de la Easy Company. Ils sont non identifiés à l'écran, un procédé qui installe d'emblée la dimension de mémoire vivante de la série, les noms des vétérans concernés n'étant révélés qu'au générique du dernier épisode. Dans le cadre de la promotion de la série, HBO et le constructeur automobile Jeep ont tourné ensemble 6 publicités directement sur la plage d'Utah Beach en Normandie. Une autorisation de tournage exceptionnelle, rarement accordée sur ce site mémoriel, qui a permis à HBO de toucher un très large public via une diffusion télévisée classique. Pendant la préparation, le premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, a rencontré personnellement Spielberg pour faciliter les autorisations de tournage sur le sol anglais. Une rencontre à l'issue de laquelle Spielberg aurait proposé un emploi au sein de l'équipe de production au fils du premier ministre.
We were in a store and a guy in that store told us to put our uniforms on. What the hell are you talking about? He says the USA is in a war with Japan. We couldn't believe it.
Well, our country was attacked. It's a different. It wasn't like Korea or Vietnam. We was attacked. And, you know, it's a feeling that maybe we're just dumb country people, but where I come from, but a lot of us volunteered.
Who would like to volunteer for the tank corps? Who would like to volunteer for the Air Force? Who would like to volunteer for the Navy or whatever? And then they said, who would like to volunteer for the airborne? So I said, what the hell is the airborne? Nobody ever heard of it.
We came from a small town and three fellows in that town were 4F committed suicide because they couldn't go at different time.
I did things. I didn't do them for medals. I didn't do them for accolades. I did them because it's what had to be done.
Guy says, well, you jump out of airplanes. You know, you got all your army equipment, and you jump out of airplanes to fight the enemy. They said, go to hell. Nobody put up their hands. And then I don't know what it was brought it up, but the guy giving the speech was saying, but you get paid $50 a month more. So that made it $100.
On passe à l'épisode 1. Kurai. Rappel du contexte. Le 506e régiment d'infanterie parachutiste est activé le 20 juillet 1942 au camp de Tokoa, en Géorgie, sous le commandement du colonel Robert Sink. À l'origine, c'est un simple campement sous tente, à peine baptisé Camp Tombs. Le site deviendra célèbre sous le nom de Tokoa, et le mot Kurai, qui signifie « qui se tient seul » en langue Cherokee, deviendra la devise du régiment tout entier. Près de 5000 hommes s'y sont entraînés au cours de la guerre, dont ceux des 501e, 506e, 511e et 517e régiments parachutistes. C'est une période où les États-Unis viennent d'entrer en guerre et où l'armée crée ses toutes premières unités de parachutistes, un concept encore expérimental. Ce qui est intéressant avec Tokoa, c'est que les hommes qui arrivent là ne sont pas encore des soldats d'élite. Et c'est justement tout l'enjeu. En 1942, les paras sont une expérience nouvelle pour l'armée américaine. L'idée de déposer des soldats derrière les lignes ennemies, par avion, paraît audacieuse, voire franchement hasardeuse. Il faut donc entraîner, en quelques mois, un type de soldat capable de supporter quelque chose qu'un fantassin ordinaire n'a pas à supporter. Sauter d'un avion, atterrir parfois très loin de son unité, se retrouver sans officier, sans radio, avec une arme éventuellement perdue, et devoir immédiatement prendre des décisions. Et c'est probablement cela qui explique une partie de la brutalité de l'entraînement de Tokoa. L'objectif n'est pas simplement de rendre les hommes plus forts physiquement, il s'agit de leur apprendre à continuer à fonctionner alors qu'ils sont épuisés. Le fameux Kurai devient donc beaucoup plus qu'une montagne à gravir. Il devient un langage commun. Quand un homme dit Kurai, il ne parle pas seulement de la course, il parle de toutes les fois où il a pensé qu'il ne pourrait pas continuer et où il a continué quand même. Il y a également quelque chose de très important dans le recrutement de ces hommes. Ils sont volontaires. Ils ont choisi les parachutistes alors qu'ils auraient pu rejoindre l'infanterie classique ou la marine. Certains sont motivés par l'argent supplémentaire, d'autres par le prestige, d'autres encore par le goût de l'aventure. Mais beaucoup vont découvrir à Tocoa qu'ils ont surtout choisi une existence extrêmement exigeante. Et cette sélection va créer une forte fraternité particulière. Les hommes qui restent après plusieurs semaines savent qu'ils ont tous traversé les mêmes épreuves. Ils ont souffert ensemble, couru ensemble, vomi ensemble, été punis ensemble. Cette expérience commune va devenir fondamentale lorsque la compagnie arrivera en Normandie. C'est aussi ce qui permet de comprendre le paradoxe de Sobel. Herbert Sobel, le capitaine qui dirige la Easy Company, est détesté. Mais il impose une discipline dont les hommes vont finalement bénéficier. La série pose donc dès le départ une question qui va revenir constamment. Est-ce qu'un bon chef doit être aimé de ses hommes, ou simplement être capable de les préparer à survivre ? Le récit. Le premier épisode de la série commence au 4 juin 1944, veille du débarquement. Les troupes aéroportées attendent pour embarquer dans leurs Dakota et planeurs qui doivent les emmener vers la Normandie. Les conditions météo vont obliger Eisenhower à ajourner l'opération de 24 heures. C'est là qu'un flashback nous fait basculer presque 2 ans en arrière, quand le 506e régiment d'infanterie parachutiste est au camp de Tocoa. C'est là que l'on se penche sur un groupe hétéroclite de volontaires sous l'autorité du lieutenant, puis capitaine, Herbert Sobel. Un instructeur intransigeant, en conflit croissant avec son second, le lieutenant Richard Winters, bien plus apprécié des hommes. L'entraînement culmine avec les courses sur le mont Curry, 3000 à la montée et 3000 à la descente, en moins de 50 minutes. Répété à de très nombreuses reprises, y compris juste après un repas complet de pâtes, le fameux Spaghetti Run. Les hommes enchaînent aussi des marches forcées de 20 000 à un rythme de 130 pas à la minute, et un parcours d'obstacles que certains vétérans jugeaient conçu par un monstre sadique. En vue de l'école de saut de Fort Benning, le 2e bataillon effectuera même une marche à pied de près de 185 km. La tension avec Sobel dégénère jusqu'à la mutinerie des sergents, qui refusent collectivement de continuer à servir sous ses ordres après une série de décisions tactiques jugées dangereuses lors d'exercices en Angleterre. L'épisode se clôt sur l'embarquement de la compagnie pour la Normandie. On peut imaginer ce que représente une journée ordinaire à Tocoa. Il fait chaud, les hommes sont couverts de poussière, les pieds sont meurtris, et pourtant, la journée n'est pas terminée. Ils doivent encore nettoyer leur équipement, entretenir leurs armes, manger et dormir suffisamment pour recommencer le lendemain. Et au milieu de tout ça, il y a Sobel. Ce qui rend son personnage intéressant, c'est qu'il ne ressemble pas au chef charismatique traditionnel. Il ne semble pas particulièrement courageux, il n'est pas apprécié, et il n'a pas le talent tactique de Winters. En revanche, il comprend quelque chose. S'il veut transformer ses hommes en parachutistes, il faut supprimer chez eux l'idée qu'ils ont le droit d'abandonner. Le problème, c'est qu'il pousse cette logique jusqu'à l'absurde. Les exercices deviennent progressivement une confrontation personnelle entre Sobel et ses hommes. La moindre erreur est sanctionnée, une tenue mal ajustée, une réponse qui ne convient pas, un mouvement effectué trop lentement, tout peut devenir prétexte à une punition supplémentaire. Et c'est là que Winters devient essentiel. Il ne cherche pas à concurrencer Sobel par la brutalité. Son autorité fonctionne autrement. Il connaît les hommes, comprend leurs limites, et sait quand il faut pousser et quand il faut simplement faire confiance. C'est cette différence qui va devenir déterminante en Normandie. On pourrait presque dire que le premier épisode raconte 2 entraînements en parallèle. Sobel entraîne les hommes à obéir, Winters, sans forcément le vouloir, leur apprend à réfléchir. Et lorsque les deux qualités entreront en conflit pendant la guerre, on comprendra pourquoi Winters va progressivement prendre une place aussi importante. La mutinerie des sergents constitue donc une rupture. Pour la première fois, des hommes disent collectivement « nous acceptons l'autorité, mais nous refusons de suivre un chef que nous considérons comme dangereux ». Le colonel Sink se retrouve face à un choix impossible. Punir les sergents risque de casser une unité qui fonctionne. Destituer Sobel risque d'affaiblir l'autorité militaire. Il choisit finalement une solution intermédiaire. Et c'est là que la série réussit quelque chose de très intéressant. Sobel perd son poste, mais il n'est pas complètement disqualifié comme soldat. Il restera un homme compliqué, dont l'héritage est à la fois celui d'un tyran d'entraînement et celui d'un instructeur qui a contribué à forger l'une des compagnies les plus célèbres de l'armée américaine. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est romancé ? Les courses de Curry et la dureté de l'entraînement sont fidèles à la réalité. Les hommes couraient effectivement la montagne à répétition, parfois juste après un repas, au point que certains vomissaient ou s'effondraient sur le sentier. La série ne montre qu'un aperçu limité de l'ampleur de la sélection à Tocoa. Sous l'entraînement de Sobel, une partie importante des recrues n'a jamais terminé le parcours, certains hommes perdant jusqu'à 18 kilos pendant la préparation. La mutinerie des sergents est un événement réel, documenté par Ambrose. Les sous-officiers ont bien menacé collectivement de démissionner plutôt que de suivre Sobel au combat, en particulier après que celui-ci a montré à plusieurs reprises son incapacité à lire une carte correctement lors d'exercices en Angleterre. La décision du colonel Sink de réaffecter Sobel plutôt que de sanctionner les sergents a sans doute évité une crise plus grave au sein du régiment. Malgré son image de tyran, Sobel est aussi crédité par ses supérieurs, dont le colonel Sink, d'avoir façonné une unité d'une discipline redoutable. La série tend à le présenter en antagoniste plus unilatéral que la réalité historique ne le suggère. Sur le terrain, en revanche, ses limites tactiques et sa lecture de cartes hasardeuses sont bien documentées et corroborées par plusieurs témoignages. Un détail humain. Il existe un élément absent de la série, mais éclairant sur la suite de la vie de Sobel. Après son retrait du commandement de la Easy Company, il n'a pas disparu de la guerre. Il a continué de servir, a lui-même sauté sur la Normandie le jour J, avec une autre unité, obtenu une Bronze Star, puis a été rappelé en service actif pendant la guerre de Corée. Sa vie après-guerre a cependant pris un tour tragique. Devenu comptable à Chicago, il a divorcé, s'est retrouvé isolé de sa famille et a tenté de se suicider en 1970. Une tentative qui l'a laissé aveugle pour le reste de sa vie. Il est mort en 1987, seul, dans un établissement pour vétérans de l'Illinois, sans qu'aucune cérémonie funéraire ne soit organisée. Cette destinée, bien plus sombre que ce que la série laisse deviner, invite à nuancer le portrait unilatéral que pourrait en garder le grand public. La mise en perspective. Cet épisode pose les fondations de toute la série. La formation d'un collectif sous la contrainte avant l'épreuve du feu.
Standing in the door, I could see the lights on a drop zone, and I had assumed that was our drop zone, way in the, ahead of us. And so that we had the red light, I had everybody standing up, ready to jump. So when the plane started to get hit, and suddenly the pilot gives me the green light, I'm out the door. Immediately.
Got such an opening blast from the, or opening shock from the prop blast that it broke this chin strap that we had on this helmet liner. And that's when I lost this famous leg bag that everybody talks about. Just from the shock of the opening, it just flew right off my foot.
We came from the sky, we hit, and in any direction you went, there would be enemy. You knew it. And that was all part of what you accepted.
How do you prepare yourself? Mentally? Each man must do that himself. Each man must prepare himself mentally to make that jump.
In the back of your mind, you wonder what's going to happen and all that. You know, you've been trained and trained and trained and what your job is going to be and what you're supposed to do. And that's what you got to think about, you know. And we lost a lot of people that night, but you try to put it all out of your mind.
Passons à l'épisode 2, Day of Days. Rappel du contexte. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des milliers de parachutistes américains sont largués derrière les lignes allemandes en amont du débarquement de Normandie, transportés par les avions du 9th Troop Carrier Command. Le dispositif est immédiatement perturbé par un épais brouillard et une intense défense anti-aérienne allemande provoquant la dispersion considérable des hommes sur une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Pour comprendre le chaos du jour J vu dans cet épisode, il faut rappeler une chose essentielle. Le plan prévu par les états-majors et ce que vivent réellement les parachutistes n'ont pratiquement rien à voir. Sur une carte, tout semble relativement simple. Les avions doivent suivre des itinéraires précis, les parachutistes doivent sauter à proximité de leur drop zone, rejoindre leurs unités, récupérer leurs équipements et accomplir leurs objectifs. Mais un parachutage de nuit, au-dessus d'un territoire ennemi, est extrêmement difficile. Il suffit que l'avion soit légèrement décalé, qu'un pilote perde ses repères, qu'un homme saute quelques secondes trop tôt ou trop tard, et il peut se retrouver à plusieurs kilomètres de l'endroit prévu. À cela s'ajoute la DCA allemande. Les avions volent dans l'obscurité, les parachutistes ne savent pas ce qui les attend en dessous, et certains appareils sont touchés avant même d'avoir atteint leur zone de largage. C'est pourquoi beaucoup d'hommes arrivent au sol seuls. Certains vont passer des heures à chercher leurs camarades, d'autres vont rejoindre des groupes composés de soldats qu'ils ne connaissent pas. Certains vont même accomplir leur mission sans savoir exactement où ils se trouvent. Et pourtant, c'est précisément pour cela que l'entraînement de Tokoa avait été aussi important. Le parachutiste doit être capable d'agir sans attendre qu'un supérieur lui dise quoi faire. Le récit. Le saut sur la Normandie tourne au chaos. Aucun homme ne se pose là où il est prévu. Beaucoup perdent armes et matériel, et l'avion transportant le commandant de la compagnie, le lieutenant Thomas Meehan, est abattu en vol, tuant tout l'équipage à son bord. Winters, apprenant sa disparition, se retrouve à la tête de la Easy Company. Il est chargé de mener une attaque contre une batterie allemande de 4 canons de 105 mm à Brécourt, qui pilonne les troupes débarquant à Utah Beach. Avec une douzaine d'hommes, Winters neutralise les 4 canons en s'appuyant sur la vitesse et l'effet de surprise face à une position pourtant fortifiée et bien plus nombreuse. La disparition de Meehan est particulièrement importante parce qu'elle illustre la fragilité du commandement. En quelques secondes, la Easy Company perd son commandant. Winters ne reçoit pas immédiatement une cérémonie officielle, un ordre écrit ou une réunion de commandement. Il découvre simplement que son supérieur a disparu et qu'il faut maintenant agir. C'est une caractéristique de toute la série. Les promotions ne sont pas toujours annoncées solennellement. Elles arrivent parce que quelqu'un est mort, blessé ou disparu. Et Winters se retrouve dans cette situation presque immédiatement. L'attaque de Brécourt est alors une sorte de démonstration de tout ce que Tokoa avait essayé de produire. Les hommes disposent de très peu d'informations, ils doivent progresser vers les canons, identifier les positions allemandes, éviter les tirs et neutraliser une batterie qui menace directement les troupes débarquées sur Utah Beach. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement que les 4 canons soient détruits, c'est la manière dont Winters organise son attaque. Il ne cherche pas à gagner par le nombre. Il cherche à créer une succession de petits avantages. Surprise, vitesse, concentration de feu, progression par bond. Une fois le premier canon neutralisé, les hommes comprennent mieux la disposition de la position allemande. Chaque succès leur donne l'information nécessaire pour atteindre le suivant. C'est une leçon de tactique improvisée et cette attaque va changer la réputation de Winters. Jusqu'ici, il était le lieutenant apprécié de ses hommes. Après Brécourt, il devient quelque chose de plus. Un leader dont les autres officiers commencent à reconnaître la valeur. C'est important pour la suite de la série parce que Winters va progressivement quitter le rôle de simple chef de la Easy Company pour prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Mais l'épisode contient également une autre histoire, celle de la guerre vécue par ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils sont capables de faire. Les hommes sautent en Normandie avec de l'entraînement, mais personne ne sait réellement comment il réagira sous le feu. Certains sont héroïques, certains paniqueront, certains seront blessés, certains mourront avant même d'avoir tiré un coup de feu. C'est précisément ce qui rend le jour J de Band of Brothers aussi efficace. La guerre n'est pas présentée comme une bataille parfaitement organisée. C'est une succession d'hommes qui essaient de comprendre ce qui se passe et de faire leur boulot au milieu du chaos. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est romancé? L'attaque de Brécourt est fidèle dans ses grandes lignes. Une douzaine d'hommes contre une position fortifiée, les 4 canons détruits, Winters décoré de la Distinguished Service Cross, la deuxième plus haute distinction militaire américaine. Le carton à la fin de l'épisode est véridique. Cette action est encore enseignée aujourd'hui à West Point comme cas d'école tactique de petite unité. Le lancer de grenade de Buck Compton, calculé pour exploser au contact grâce à son expérience de joueur de baseball universitaire, est directement documenté par Ambrose. C'est un choix fidèle à un témoignage, pas une liberté de tournage. Un point plus débattu, l'exécution de prisonniers allemands attribués au lieutenant Ronald Spears. Pendant cette même nuit reste encore aujourd'hui un épisode dont la réalité exacte est discutée parmi les vétérans eux-mêmes. Le chaos du parachutage correspond bien au rapport de l'époque sur la nuit du 5 au 6 juin, marqué par le brouillard et la défense anti-aérienne allemande. Un détail humain. Richard Winters lui-même, sa médaille et une partie de sa collection personnelle sont exposées aujourd'hui dans un musée américain qui lui rend hommage comme modèle de commandement sous pression. On peut aussi évoquer la relation particulière qu'il a nouée avec le scénariste Eric Jendresen, allait le rencontrer directement dans sa ferme de Pennsylvanie pour construire la série à partir de ses souvenirs. Une amitié si profonde que Jendresen prononcera l'éloge funèbre de Winters à sa mort en 2011. Mise en perspective. La première épreuve du feu confirme Winters dans son rôle de meneur, un statut qui structurera toute la suite de la série. Les deux premiers épisodes ne se contentent pas d'ouvrir la série, ils posent une grille de lecture pour le reste de la série à travers un contraste que celle-ci va creuser tout du long. Kurai construit une autorité imposée par le grade et la peur, Sobel, incapable de survivre à l'épreuve du terrain. Day of Days lui oppose une autorité qui naît au contraire dans le chaos du combat, quand Winters prend le commandement de fait, sans même en avoir reçu l'ordre formel. Simplement parce que la situation l'exige et que les hommes le suivent. Cette bascule est peut-être la thèse centrale de toute la série, et ses deux premiers épisodes la posent en un seul geste dramatique. L'un montre ce que l'autorité n'est pas, l'autre ce qu'elle devient sous le feu. Les deux épisodes partagent aussi une même structure de seuil. Takoa se termine par un embarquement, un passage vers l'inconnu. Le jour J se termine par une position conquise, mais aussi par la perte d'un chef, et par la prise de conscience que rien du plan initial ne s'est déroulé comme prévu. Dans les deux cas, l'unité franchit une étape non pas parce qu'elle a suivi une procédure, mais parce qu'elle s'est adaptée à l'imprévu. Un motif qui reviendra sans cesse dans la série jusqu'à Bastogne. Enfin, ce noyau de cohésion, forgé dans la douleur à Takoa, puis scellé dans le sang à Brécourt, est précisément ce que les épisodes suivants vont mettre sous tension. Au prochain épisode, la Easy Company quitte les plages et l'arrière-pays normand pour la percer vers 40 ans. Puis vers la Hollande, avec l'arrivée des premiers remplaçants et les premières fractures au sein d'un groupe jusque-là très soudé. La peur individuelle qui isole, le soldat Blythe, puis le rejet de l'autre qui divise les remplaçants. On peut enfin en profiter pour rappeler le dispositif documentaire posé dès l'ouverture de l'épisode 1 et que vous entendrez tout au long de ce podcast. Les témoignages de vétérans, réels, non identifiés, qui encadrent chaque épisode. Dès ce diptyque inaugural, la série prévient son spectateur. Il regarde une reconstitution nourrie de mémoires vivantes, et non une pure fiction.